Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 9 mars 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous rejoindre pour un nouveau midi à Ça vaut le détour. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clé CVLD pour Ça vaut le détour ou @ canal barre de soulignement M. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on a une émission très variée, plusieurs chroniques de nos collaborateurs de Ça vaut le détour à Canal M. On parle troubles anxieux, dépression, pensées suicidaires. Les enfants ne sont pas à l'abri des problèmes de santé mentale qu'on associe davantage au stress vécu à l'âge adulte. On estime que 20 % des enfants reçoivent l'aide appropriée. On parle de l'impact de la maladie mentale des enfants sur la vie des familles en fin d'émission avec Mme Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation des Petits Trésors. Hier, le 8 mars, le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées lançait le guide et les capsules vidéo « Réussir sa vie professionnelle avec une perte de vision ». Le directeur général du CAMO, M. Claude Séguin, sera dans nos studios pour parler des défis de maintenir une vie professionnelle active lorsqu'on a une perte de vision et de ce nouvel outil qui s'adresse autant aux employés qu'aux employeurs. L'accessibilité des commerces, c'est beaucoup plus qu'une simple affaire de rampe d'accès. Avec la spécialiste en accessibilité universelle Sophie Langteau, directrice de Société Logique, on discute de tout ce qui fait de l'expérience dans un commerce est accessible et non seulement l'entrée. Les familles vivant avec une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme ont des besoins particuliers et parmi ceux-ci, le gardiennage et l'accompagnement font l'objet de nombreuses demandes. On s'entretient avec Mme Diane Bernier-Houde, coordonnatrice aux événements pour l'organisme Autisme Montérégie, qui a mis sur pied le programme Accès Répit. Bonjour Mme Bernier-Houde.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très, très bien, merci.
D'abord, depuis quand le programme Accès Répit existe-t-il?
Alors, c'est depuis 2013. C'était la première année. C'est grâce justement aux C3S de l'époque de Champlain Charlemagne qui nous ont permis d'offrir ce service extraordinaire pour les parents de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, donc le TSA.
Mm-hmm. Et donc, on parle d'une... Vous êtes dans la troisième année d'activité.
Exactement.
Du
oui.
programme. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce programme-là? Est-ce que c'était des demandes qui étaient fréquentes venant des parents?
Tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs sondages qui se sont faits lors de tables de concertation qui n'étaient pas nécessairement de la part de Autisme Montérégie, bien que nous, on en a fait un dernièrement. Et dans tous les sondages, quand on demandait aux parents quel était un des besoins qui était le plus important pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour les aider, c'était un service de gardiennage, mais du gardiennage spécialisé en troubles du spectre de l'autisme.
Justement, dans le fond, vous offrez une formation pour les gardiens et les gardiennes qui vont s'occuper...
Au domicile. C'est ça, exactement. C'est ce qui est particulier. Donc, oui, donc le service d'accès répit, comme je disais, c'est un service de gardiennage et d'accompagnement. On dit accompagnement parce que les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme peuvent être des enfants, des adolescents, des adultes. C'est de 0 à 100 ans. Mm-hmm. Alors, quand on parle de jeunes enfants, on va dire c'est des gardiennes, sinon on va parler d'accompagnement. C'est plus approprié pour les adultes TSA. Donc, mm-hmm. on offre ce service de gardiennage-là où les gardiennes accompagnatrices se rendent au domicile de la famille pour regarder l'enfant ou l'adolescent ou la personne TSA. Mais quand on parle d'enfant, il y a aussi la fratrie qui peuvent être sur place, là, évidemment. Mm-hmm. Et puis, non seulement c'est un service de gardiennage, d'accompagnement, c'est aussi un service de formation et d'accréditation pour les gardiennes accompagnatrices. Parce qu'elles doivent absolument avoir suivi notre formation d'une journée complète, là, un 7 heures complet, où on va parler du trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire toutes les caractéristiques par rapport au TSA, et aussi une deuxième partie sur les besoins des familles. Donc, l'approche avec les familles, la stratégie d'intervention, par exemple, adaptée à ces, à ces familles-là.
Oui, donc ce qui fait la particularité du programme, c'est vraiment la formation que vous offrez.
Tout à fait.
Et vous l'avez mis sur pied avec d'autres organismes, en partenariat peut-être avec...
Alors, au début, on était seul là-dedans. Ensuite de ça, oui, effectivement, c'est important de le mentionner aussi. Parce qu'on a nos propres gardiennes accompagnatrices, mais aussi on forme et on accrédite d'autres personnes de d'autres organismes qui, eux, ont leurs propres gardiennes, mais les organismes voudraient qu'elles suivent la formation d'Autisme Montérégie. Mm-hmm. On leur donne, mais ensuite de ça, le suivi des familles et des gardiennes accompagnatrices se fera par l'organisme en question.
Et... Comment, en quoi consiste la certification? Qu'est-ce qui fait qu'on est en mesure de bien accompagner ou d'être une bonne gardienne pour des jeunes qui ont le TSA?
Bien, premièrement, c'est sûr que toute personne est acceptée hein, pour devenir gardien, gardienne accompagnatrice, parce que les hommes sont aussi invités à se joindre à l'équipe. Par contre, j'en ai pas beaucoup, je vais être franche avec vous. Il n'y en a vraiment pas. Mais sinon, c'est 16 ans et plus. Il faut que vous soyez sensibilisé aussi aux personnes avec des besoins particuliers, c'est sûr. Et ensuite de ça, vous suivez une formation de séjour, comme je disais tantôt, mais vous devez, à la fin de cette formation-là, de cette journée-là, elles doivent réussir un examen écrit. Et nous, on s'assure qu'elles ont compris toutes les informations qu'on leur a données au cours de la journée. Et on veut savoir aussi, pas juste au niveau théorique, mais aussi au niveau, selon les mises en situation, on veut voir si elles sont capables d'analyser toutes les situations, les mises en situation qu'on leur a présentées. Mm-hmm. À savoir, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que on leur apprend, entre autres, à identifier, par exemple, quel est le besoin derrière un comportement, par exemple, une crise. On dit souvent, les personnes qui ont un enfant qui fait une crise, ben ça arrive souvent pour les personnes TSA. Mm-hmm. C'est pas toujours ça. C'est pour ça que c'est très important pour nous qu'elles apprennent à identifier quel est le besoin derrière ce comportement-là, au lieu de changer le comportement immédiatement.
Mm-hmm. C'est une meilleure approche pour pouvoir répondre aux besoins de la personne.
Exactement. Donc, ça évite souvent les crises. Donc, par exemple, l'enfant, l'adolescent, il va éviter de faire des crises parce qu'il voit bien que la personne devant lui va essayer de communiquer autrement. Donc, ça évite le stress aussi de cette personne-là.
Tout à fait.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Justement, ces personnes qui reçoivent la formation, donc qui sont certifiées, comment est-ce qu'elles sont jumelées aux familles qui ont besoin d'un répit?
Alors, il y a deux façons. La première, en principe, c'est que le parent qui veut accéder à notre liste de gardiennes doit absolument devenir membre chez Autisme Montérégie. Une fois qu'il est devenu membre, on lui donne un numéro de membre, justement, qui deviendra son mot de passe, en allant directement sur notre site Internet à la page relatif au service accès répit. Le parent pourra entrer son numéro de membre et accéder automatiquement à la liste des gardiennes. Selon ses besoins, il n'y aura qu'à cliquer. Ensuite de ça, à chaque, il y aura une liste de noms de gardiennes qui apparaîtra. Mm-hmm. Et là, au bout de chaque nom, il y a une fiche technique. Et cette fiche technique-là, ça dit tout par rapport à la gardienne, donc ses coordonnées. Donc, les parents peuvent communiquer directement avec ces gardiennes-là.
Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. On offre vraiment les ressources directement.
Voilà. Cependant, l'intermédiaire, c'est la chargée de projet. C'est moi, en réalité, le problème. La chargée de projet. C'est sûr que nous, notre responsabilité, c'est de faire un suivi auprès des familles, faire un suivi auprès des gardiennes accompagnatrices et ensuite de ça, de faire, suite au suivi. Par exemple, on développe des outils aussi pour améliorer le service. Il y a tout ça. Moi, je suis là. Aussitôt qu'il y a quoi que ce soit, évidemment, je peux répondre. Donc, ça, c'est une façon. Par contre, c'est sûr qu'il y a des parents qui n'ont pas accès à Internet ou pour toute autre raison. Ça peut être un gardiennage très, très, très urgent. Alors là, on va faire ce qu'on appelle un jumelage, c'est-à-dire c'est la chargée de projet. Qui va trouver une gardienne pour ses parents qui n'ont pas accès.
Qui paie les frais de gardiennage? Est-ce que ça revient aux familles?
C'est aux familles. Exactement.
Comme si c'était un service conventionnel.
C'est ça. Donc, les parents sont avertis. De toute façon, ils ont droit à un guide des parents. Tout est expliqué. Elles doivent, une fois qu'elles communiquent avec la gardienne, demander combien la gardienne doit charger. Je vous dis tout de suite, c'est à peu près entre 10 et 15 $ de l'heure. Et il y a toujours moyen de s'arranger entre les deux personnes, entre la gardienne et le parent. Et ça dépend, le pourquoi entre 10 et 15, ça dépend. Est-ce que l'enfant ou l'adolescent a des besoins est-ce que son trouble du spectre de l'autisme est plus important qu'un autre? Est-ce que la fratrie va être là? Des fois, ils sont trois enfants à la maison. Des fois, c'est un enfant tout seul. Des fois, ce sont deux enfants, mais les deux ont un TSA. Donc, ça va dépendre.
Et quel est le territoire qui est desservi parce que c'est une initiative de Autisme Montérégie? Dans quel territoire est-ce qu'on peut retrouver ce service-là?
Oui, alors, présentement, nous avons quatre territoires. Alors, Champlain, Charlemagne, qui était le premier. Ensuite de ça, nous avons Haut-Richelieu-Rouville, Pierre-Boucher et le tout dernier, Jardin-Roussillon. Je peux vous dire tout de suite qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. On est en pourparlers.
En expansion.
Oui. Dans le fond, notre but, c'est d'être à peu près partout. Comme je vous disais, ou bien grâce à notre banque de gardiennes à nous, à Autisme Montérégie, ou encore avec des collaborations avec d'autres organismes qui auront leur propre banque de gardiennes, mais dont on aura formé et accrédité. Et je tiens à spécifier que toute gardienne accompagnatrice doit absolument subir une vérification policière, c'est-à-dire au niveau des antécédents judiciaires. Elles n'en ont pas, évidemment. Tout ça, c'est surveillé.
Oui, on n'attendait pas moins, mais c'est toujours bon de
oui,
le rappeler.
Dire. Oui.
Sécurité. Madame Bernier-Houd, votre organisme fête cette année son 10e anniversaire. Est-ce que vous avez quelques activités spéciales en vue?
Mais écoutez, oui, on a des activités. Je vous dirais que ça va se passer plus pendant notre rendez-vous pour l'autisme qui va avoir lieu dimanche, le 24 avril. C'est une journée de sensibilisation là, de 8h30 à aller facilement jusqu'à 15h où on invite toutes les familles, que vous ayez des enfants avec un TSA ou pas. C'est une journée de sensibilisation où c'est sous le thème du sport cette année. Et ça débute par une marche de sensibilisation d'environ 4 kilomètres. C'est situé à l'école secondaire André Laurando. Ensuite, après la marche, des jeux gonflables, de la course à obstacles, tout ce qui a rapport au sport. On va avoir des ateliers sportifs aussi. Alors, ça va être la grande, grande fête toute la journée. On invite le monde à s'inscrire sur notre site Internet. Vous avez la possibilité. C'est vraiment pas dispendieux. Pour les enfants de 0 à 12 ans, c'est gratuit.
On met cette date, le 24 avril, à notre agenda. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur le site autismemontérégie.org. Merci beaucoup, Madame Diane Bernier-Houd. Vous êtes coordonnatrice aux événements d'Autisme Montérégie. Merci de nous avoir parlé de ce beau programme Accès Répit et on vous souhaite un bon succès.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Ton cœur est un robot qui crie sa soif. Ton emport en bocal avant de te ramasser avec un flat. Faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui graine des airs.
La pièce 10 piastres de Fred Fortin, tirée de son nouvel album Ultramar, apparaître le 18 mars prochain sur l'étiquette Grosse Boîte. Je vous invite évidemment à surveiller ça. On aime toujours Fred Fortin. Alors, on continue notre émission à Ça vaut le détour. On accueille en studio pour une deuxième chronique, la chronique mensuelle de Société Logique. J'ai Sophie Langteau, directrice, avec moi. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui, en fait, d'accessibilité universelle, des commerces, mais au-delà de la rampe d'accès. On a souvent dans l'idée, beaucoup de commerçants croient à tort, parfois, que leur commerce, qu'on parle de boutiques, restaurants, autres, sont accessibles parce qu'on peut y entrer. Mais ça va au-delà de ça. Mais avant de rentrer dans les autres aspects qui ont une influence sur l'expérience du client, on va rappeler tout de même le concept d'accessibilité universelle.
OK. Bien, l'accessibilité universelle, ça s'oppose à deux autres concepts qui sont l'adaptation puis l'accessibilité, dans le fond. Ce que ça dit, c'est qu'il faut tenir compte des besoins de toute la population pour arriver à ce que tout le monde utilise les mêmes choses de la même façon. Donc, on tient compte des besoins des gens qui voient moins bien, qui entendent moins bien, qui se déplacent ou qui comprennent différemment. Puis on trouve des solutions qui ne seront pas destinées uniquement à ces personnes-là, mais qui vont être utilisées par la population en général. Dans le fond, rendre les lieux plus fonctionnels si on parle de lieux.
Mm-hmm.
L'accessibilité universelle, c'est 4 axes. L'architecture, l'aménagement, les communications, les programmes, les services, l'emploi, puis la formation, service à clientèle. Quand on va parler des commerces aujourd'hui, on va parler surtout de l'aménagement,
mm-hmm.
mais il ne faut pas oublier que les autres axes sont très importants aussi pour qu'on ait une expérience complète, comme tous les clients, parce que dans les commerces, c'est des clients.
Effectivement. Justement, bon, on a très bien résumé le concept d'accessibilité universelle. Avant d'entrer, il y a justement, dans un commerce, il y a la façade, il y a les vitrines qui sont là, parfois peuvent poser un problème au niveau de la signalisation.
Oui, bien, en fait, la vitrine, c'est l'invitation dans un lieu. Hein. Donc, si c'est invitant, si on reconnaît facilement le commerce parce que c'est distinctif, on va pouvoir se repérer plus facilement, même si on comprend moins bien les choses. Si le numéro civique est clair, le nom est clair, avec pas des lettres trop stylisées, tout le monde va être capable de les lire. Puis si on a une vitrine qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur du commerce, bien, on va être invité, on va inciter à y aller, puis on va se sentir en sécurité aussi. Ça fait que ça commence déjà à l'extérieur, quand on approche du commerce.
On parle de l'extérieur. Maintenant, on va entrer dans le commerce. Donc, ça prend minimalement un accès physique.
Oui, il faut être capable de franchir la première étape, d'ouvrir la porte puis de rentrer. Bien, idéalement, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle d'une entrée de plein pied. Tout le monde passe par la même porte, tout le monde entre de la même façon. C'est sûr que dans les commerces existants, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a souvent une petite marche. La petite marche veut dire que tout le monde ne peut pas entrer dans le commerce. Il y a toutes sortes de façons de combler cette marche-là. On voit les plans inclinés là, temporaires amovibles qui apparaissent.
Une solution temporaire.
Temporaire, qui est super louable parce que les gens veulent fréquenter ces commerces-là, mais à long terme, c'est pas nécessairement viable. Ça permet pas l'autonomie, là. Faut attendre que quelqu'un vienne installer ça, puis on peut pas en même temps emprunter ça, puis ouvrir la porte, puis entrer. Donc, c'est pas si évident que ça. Il y a des solutions qui sont plus permanentes, mais sont pas évidentes non plus, parce que c'est toutes des solutions qui sont dérogatoires, dans le fond, parce que quand on a un plan incliné qui arrive direct sur le seuil de porte, ça respecte pas la réglementation de construction.
Donc, c'est quand même plusieurs éléments avec lesquels il faut conjuguer.
C'est ça. L'entrée, c'est déjà un défi à solutionner.
Prenons pour acquis que ce défi-là, on peut le surmonter. L'entrée est accessible. Une fois à l'intérieur, il y a tout de même d'autres choses à prendre en considération.
Oui, oui. Quand on rentre, on peut entrer dans un vestibule, avoir une deuxième porte. Mais là, si on n'a pas assez d'espace, on va avoir de la misère à ouvrir la deuxième porte. Fait que l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas de vestibule. C'est sûr que des fois, les commerçants nous disent « Ah, bien, en hiver, il y a du froid qui rentre. » Mais là, on peut installer un rideau l'hiver pour faire une espèce de sas qui va être facile à franchir puis qui va permettre de faire la même fonction, mais qu'on n'aura pas de vestibule. Ensuite, quand on rentre dans le commerce, idéalement, le commerce, il est sur un seul niveau. On n'a pas 3 marches pour aller dans une section où il y a des produits ou tout ça. Donc, idéalement, c'est sur un seul niveau. Quand ce n'est pas possible, ben, ça prend un plan incliné pour pouvoir franchir la différence de niveau. Ça prend des allées assez larges. Il faut circuler dans les allées. Des présentoirs avec des produits qui sont à une hauteur qu'on est capable d'atteindre.
Mm-hmm.
Ça, c'est bien important. Puis des fois, on voit que les allées sont assez larges, mais justement, comme elles sont larges, les commerçants se dépêchent de les remplir avec toutes sortes de produits là, d'installation, en spécial,
promotionnel.
Ouais. Fait que là, ça limite notre espace de manœuvre. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ça prend des comptoirs aussi qui sont à la bonne hauteur. Pas un comptoir à côté plus bas. Un comptoir pour tout le monde.
Mm-hmm.
C'est ça quand on parle d'accessibilité universelle. Où on va être capable d'aller interpeller la personne qui est de l'autre côté du comptoir puis faire nos transactions à une hauteur qui convient à tous. Ça existe. À ces endroits-là, on a habituellement aussi le système pour payer le terminal de point de vente. Mm-hmm. Ça aussi, c'est important qu'il ne soit pas fixé sur le comptoir. On le voit trop souvent. Quand c'est fixé, à ce moment-là, c'est difficile de s'approcher pour voir ce qu'on est en train de faire quand on a une déficience visuelle ou quand on a une déficience motrice. C'est difficile d'y avoir accès puis de le manipuler.
Bien, même moi, je circule en fauteuil roulant et s'il est fixé au comptoir, je ne peux pas... voir, j'y vais comme, justement, une mauvaise expression, mais j'y vais à l'aveugle, finalement, à pitonner moi-même sur les boutons sans voir qu'est-ce que je fais.
En espérant que ta transaction ne coûtera pas deux fois plus cher que prévu.
Exactement, on essaie d'éviter ça.
Ça, c'est certain que c'est contre le vol, parce qu'ils se les font voler, mais il y a moyen de pouvoir de pas le fixer, pour commencer, ou d'avoir un système de fixation où ça s'enlève très, très facilement. Puis là, on peut le passer à la personne qui en a besoin pour qu'elle puisse le manipuler.
Il y a aussi une expérience d'éclairage. Parfois, l'éclairage, la musique, particulièrement dans les restaurants, ça peut vraiment avoir une influence sur l'expérience client.
Oui. Bien, en fait, si on commence par l'éclairage, quelqu'un qui a une déficience visuelle, mais qui a un résidu visuel, tout ce qui est éclairage, contraste de couleur, va l'aider dans le commerce, va l'aider à voir les prix, à lire un menu, même à s'orienter dans le commerce. Ça devient important. Le bruit de fond, la musique de fond à ce moment-là, s'il y a beaucoup, beaucoup de bruit, la personne qui se guide plus à l'oreille, à l'audition, parce qu'elle voit moins bien, bien là, ça devient cacophonique, comme pour la personne qui a une déficience auditive, qui a beaucoup de difficultés à entretenir une conversation dans un restaurant quand la musique ou le bruit de fond est très, très élevé. Ça, ça a un impact également.
À ce moment-là, parce qu'il nous reste à peine une minute avant de conclure la chronique, à ce moment-là, l'éclairage et la musique, ça peut être quelque chose qu'on peut demander à modifier. C'est là où est-ce que la formation du service à la clientèle est importante.
Elle devient très, très importante d'être capable d'identifier les clients qu'on reçoit, leurs besoins, puis d'être capable de s'ajuster, puis d'avoir des réponses intelligentes à leur donner aussi. Hein? Pas juste leur dire, bien là, on ne peut pas parce que c'est comme ça. Se mettre dans la peau des gens, c'est quand on conçoit un aménagement ou qu'on répond à nos clients, c'est ça qui est le plus important pour être capable de donner une bonne expérience client. Mm-hmm. Moi, j'invite les restaurateurs, les commerçants à se mettre dans la peau des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles puis à analyser leur offre de service puis leur lieu en se disant, y a-t-il certains problèmes puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? C'est ces petites attentions-là qui vont faire la différence.
Oui, puis c'est aussi dans l'objectif, dans une optique d'accessibilité universelle, de ne pas toujours devoir emprunter un chemin alternatif.
Et oui.
Des options alternatives.
Et si on prend le réflexe de donner une attention particulière à nos clients, ça va être bon pour tous nos clients, pas juste ceux qui ont une limitation fonctionnelle.
Absolument ça. Ça parle un bon langage marketing. Je pense que ça peut rejoindre des gens. Merci beaucoup, Sophie Longteau, directrice de Société Logique, d'avoir mis un peu d'éclairage justement sur les défis aussi des commerces qui souhaitent être accessibles universellement. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic CVLD ou @canal_m sur Twitter. J'en parlais en début d'émission. Hier, le 8 mars, avait lieu le lancement du guide et des capsules vidéo « Réussir sa vie professionnelle avec une perte de vision », un projet réalisé par le CAMO, le comité
d'adaptation
de la main-d'œuvre pour les personnes handicapées situé à Montréal. Et c'est un projet réalisé grâce au soutien de la Fondation Hector
Sibiot.
Cipiote, c'est comme ça qu'on le prononce, Cipiote. Ah, ben merci. Oui. J'accueille la voix que vous entendez et le directeur général, M. Claude Séguin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, on fait un retour sur ce lancement hier, un grand projet qui s'est quand même échelonné sur...
Sur à peu près une année.
Ouais, une année de travail.
Oui.
Ce projet de guide et de capsule vidéo, ça présente 9 parcours de professionnels qui vivent avec une perte de vision et de leurs employeurs.
Tout à fait. Alors, notre but, au fond, c'était de tenter le mieux qu'on pouvait de démontrer, de convaincre même, autant que c'est possible, qu'on peut travailler avec une déficience visuelle, de démontrer que la déficience visuelle, c'est pas un frein insurmontable à l'emploi.
Mm-hmm.
Donc, on s'est dit... La meilleure façon de le démontrer, c'est de pouvoir avoir des témoignages de travailleurs, de personnes donc, qui sont en emploi, qui ont une déficience visuelle, d'avoir aussi des témoignages de leur employeur pour faire ressortir là-dedans c'était quoi un petit peu les conditions qui sont gagnantes ou favorables pour favoriser donc cette intégration en emploi. Alors, on a essayé d'établir nos profils de personnes pour... Mm-hmm. Que ça puisse décrire là, le plus largement possible toutes sortes de cas de figure, si on peut me permettre l'expression. Donc, au niveau de la déficience visuelle, bien évidemment, on a voulu avoir des gens dont le profil pouvait tenir compte de différents types de déficiences et donc ça permettait de voir que des gens fonctionnent pour un bon nombre avec des capacités visuelles, d'autres avec moins de capacité parce qu'ils s'approchent peut-être davantage de la cécité.
Mm-hmm.
Mais on voulait avoir ces profils pour démontrer qu'on pouvait réussir sa vie professionnelle avec ces caractéristiques-là.
Et qu'est-ce qui est ressorti justement? Est-ce qu'on est capable de dresser nommer certains éléments qui favorisent vraiment? Vous avez remarqué quelque chose au niveau des milieux d'emploi, de même que chez les professionnels.
Oui.
On parle, pour les professionnels, de personnes qui s'assument.
Oui. Oui, je pense que c'est important d'envisager que si on veut réussir sa vie professionnelle, il faut faire certaines démarches en fonction des exigences d'une vie professionnelle. Ce qui veut dire que, bien, nécessairement, il faut aller chercher certaines formations en fonction d'un marché de travail, de répondre à un certain nombre de besoins du marché du travail. À cet égard-là, bien, il ressort assez clairement, de toute façon, des études qu'on a pu faire sur le sujet, que les personnes handicapées, en général, et les gens qui ont des déficiences visuelles, se sont bien investis au niveau de leur propre formation.
Mm-hmm. Sont proactifs.
Ils sont très proactifs. Au cours des dernières années, je vous dirais qu'on a constaté un achalandage très accru des personnes handicapées au collège et à l'université. Au collège, dans les services d'aide aux étudiants en situation de handicap, eh bien, c'était une augmentation d'à peu près 300%. Et à l'université, c'est de l'ordre de 200%. Donc, ça défait pas mal le mythe que on n'accéderait pas à l'emploi parce qu'on n'a pas beaucoup de scolarité ou pas beaucoup de formation.
Absolument.
Alors, donc, dans les caractéristiques où on dit que les personnes doivent s'assumer, bien, c'est sûr que ça, c'est important. C'est sûr que les personnes, pour un bon nombre aussi, ont eu souvent à faire des apprentissages que je n'ai pas eu, moi, à faire parce que je n'ai pas ce type de problème-là. Donc, je réfère, entre autres, évidemment, à des cheminements souvent de réadaptation où... on veut maintenir son autonomie, mais ça suppose de développer des stratégies différentes pour la maintenir, cette autonomie-là.
Ou d'aller chercher les outils techniques qui vont nous permettre de fonctionner.
Et apprendre à s'en servir. De là, ces apprentissages qui sont quand même exigeants à certains égards. Donc, on essaie de faire ressortir que ces personnes s'assument bien, mais... elles peuvent être confrontées à un certain nombre d'obstacles dans l'environnement de travail et elles auraient beau s'assumer, si ces obstacles-là ne sont pas aplanis, eh bien, l'intégration en emploi va être nécessairement compromise.
Ça prend une présence de valeur, d'équité et d'accès à l'emploi aussi, une ouverture chez les employeurs. C'est aussi ce qu'on voit.
Oui, je pense que ça prend certaines valeurs sûrement associées l'accès à l'égalité en emploi, mais au-delà des valeurs, ça suppose aussi de pouvoir agir bien concrètement sur des obstacles dans l'environnement de travail.
Avez-vous des exemples? Exemple,
alors donc, si donc dans cet environnement-là, on doit accéder à de l'information et on est privé des technologies adaptées qui nous sont utiles pour accéder à cette information, évidemment qu'on ne pourra pas se maintenir dans cet emploi-là. Alors, c'est sûr que les employeurs apprennent, entre autres choses, par nos interventions, parce qu'on fait beaucoup de formations d'entreprise, apprennent que ça existe, plein de technologies adaptées qui font qu'on peut agir sur des situations qui étaient handicapantes. Il y a parfois des choses, évidemment, plus simples au niveau des déplacements. On peut avoir un environnement qui va être plus facilitant avec quelques contrastes pour se repérer. On projette soit une petite vidéo lorsqu'on fait de la formation, puis la personne qu'on voit à l'écran, qui est une personne qui a peu de vision, on la voit se déplacer à un moment donné, puis en sortant de l'ascenseur, il y a un tapis qui avait été prévu normalement parce que l'hiver, on ne veut pas trop salir le plancher. Mais cette personne-là utilise sa canne en suivant le bord du tapis et elle arrive très facilement à son bureau.
Mm-hmm.
Donc, il y a aussi plein de choses simples auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on n'est pas dans cet environnement, quand on n'a pas côtoyé ces personnes qui ont des déficiences visuelles, mais on réalise donc qu'il y a plein de choses possibles, pas toujours très compliquées, et qui font faire toute la différence, et bien sûr.
Et donc, c'est ce genre d'exemple qu'on retrouve dans le guide et les capsules vidéo.
Oui, et donc, ces obstacles qui sont comme évidents quand je parle de barrières architecturales ou d'accès à l'information, mais aussi d'autres types d'obstacles, peut-être plus subtils, qui sont plutôt de l'ordre de la perception.
Mm-hmm.
Quand on fait, nous, de la formation, d'ailleurs, en entreprise, j'aime toujours faire un petit exercice aux gens que je rencontre, qui sont tous des gens des ressources humaines de différentes entreprises. Et je leur fais faire le petit exercice suivant. Je leur dis, prenez 2-3 minutes, puis inscrivez-moi sur une feuille 3 mots qui évoquent pour vous des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Mais très spontanément, il n'y a pas de réflexion à faire. Cherchez pas une bonne réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis après ça, on va partager un petit peu comment vous avez évalué, là, c'est quoi les mots qui sont venus spontanément. Et puis on inscrit donc au tableau les mots, puis on voit apparaître 2 colonnes souvent, une plus importante que l'autre, puis des mots qui vont être associés plus à des pertes, à des incapacités, à des besoins d'adaptation, et le reste, et moins dans la colonne potentiel, compétences, détermination, etc., etc. Fait qu'on essaie tranquillement d'amener les gens à développer un regard différent,
mm-hmm,
en fonction des compétences que ces gens-là ont et non pas des pertes.
Absolument, voir la personne en tant que selon ses capacités et non pas selon des limitations perçues.
Oui, puis on sait que les images, les objets, etc., ça nous renvoie souvent donc des perceptions qui ne sont pas dans l'ordre de ce potentiel. Fait qu'on essaie donc de transformer un petit peu ce regard-là qu'on peut avoir sur les personnes et puis de faire valoir, évidemment, avec une information objective, le fait que ces personnes ont des diplômes dans plein de domaines. Nous, au CAMO, on a organisé des salons d'emploi au cours des années. On a réalisé, entre autres choses, qu'à un des salons en particulier, où il y avait 900 personnes handicapées qui étaient venues rencontrer des employeurs, eh bien, les 2/3 de ces gens-là avaient des profils de formation postsecondaire. 42% avaient des formations universitaires. Donc, ça veut dire qu'il y a des compétences au rendez-vous.
Absolument.
Puis dans un contexte où il y a une plus grande rareté au niveau de la main-d'œuvre, du fait de la démographie et d'autres facteurs, bien, c'est un autre argument qu'on veut bien faire valoir aussi aux entreprises, et dire, écoutez, peut-être que vous avez ignoré jusque-là un bassin important de main-d'œuvre qui a plein de compétences dans plein de domaines. Alors, on vous les présente.
Vous servez justement, le CAMO sert d'intermédiaire à ce moment-là, de facilitateur, si on veut, de rencontre. Monsieur Séguin, il nous reste très peu de temps. Dans le guide, il y a aussi une section pour des ressources externes que les employeurs peuvent consulter, les employeurs et les employés.
Oui. Bien, là, on leur parle évidemment de certaines ressources parce qu'on veut essayer de leur faire valoir. Donc, ces entreprises-là ne sont pas seules là, dans leur démarche de recrutement puis d'embauche. Alors, bon, il y a des services classiques, réguliers, qui sont ceux d'Emploi Québec, là, que tout le monde connaît, mais il y en a qui sont plus propres, plus particuliers. Et on pense aux services d'emploi plus spécialisés, services de main-d'œuvre aux personnes handicapées. Et si on parle des gens qui ont des déficiences visuelles, bien, à Montréal, il y a un service qui est très dédié à ces personnes-là. C'est Horizon Travail, qui sont sur la rue Saint-Antoine, près de...
Dans le Vieux-Montréal.
Oui, bien, dans le bas de la ville, près de Metcalf, peut-être, ou Mansfield. Donc, ce service-là, il est tout à fait dédié, spécialisé à soutenir les personnes en démarche d'emploi et les employeurs, bien sûr. Il y a bon nombre de services de réadaptation en grandeur du Québec aussi, pour lesquels, évidemment, là, c'est important de...
Et bien sûr, il y a des services d'Emploi Québec aussi qui offrent différents programmes qui peuvent être des incitatifs pour les employeurs aussi.
Tout à fait.
Ce guide et surtout les 9 capsules vidéo, parce qu'ils se déclinent en un guide aussi, mais aussi 9 capsules vidéo, elles sont disponibles sur le site web du CAMO, camo.qc.ca. Merci beaucoup. Monsieur Claude Séguin, vous êtes directeur général du CAMO. Merci d'être venu nous présenter ce guide « Réussir sa vie professionnelle avec une perte de vision ».
Eh bien, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre invitation.
Tu fais comme s'il ne s'agissait que de toi. Peu importe, dans ton monde, ça se passe comme ça. Je n'ai jamais demandé à te rencontrer. Tu m'as charmé. Je suis accrochée. Un amour né de rien que je voudrais oublier, mais sans vain. Comme un vent beaucoup trop fort, on m'a jeté.
En attente de toi, une belle pièce de Rosebush de son album du même titre. Alors, on fait plein de découvertes musicales à Ça vaut le détour. Pour ce dernier segment de l'émission, on se penche sur les enfants. On estime que 20% des enfants sont touchés par la maladie mentale ou un trouble mental, ce qui est tout de même le même taux que dans le reste du monde. Donc, 20% au Québec, au Canada aussi. Et en tant que partenaire philanthropique de l'hôpital Rivière-des-Prairies, la Fondation Les Petits Trésors s'est donnée pour mission de soutenir l'établissement, le seul centre spécialisé en santé mentale pour les enfants du Québec. Bonjour Sylvie Lauzon.
Bonjour Maxime.
Donc vous êtes directrice de la Fondation Les Petits Trésors. La santé mentale, on en parle de plus en plus dans les médias. On parle beaucoup, par contre, des adultes qui vont avoir différents problèmes de santé mentale, mais il y a des statistiques impressionnantes au niveau des enfants.
Bien, en fait, c'est pas tellement différent pour les enfants que pour les adultes, mais ce qui est fascinant de tout ce domaine-là des maladies mentales, on parle de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Dans le fond, là, c'est une science qu'on n'a pas développée depuis si longtemps que ça. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'écoutais une émission de télé, c'est une émission de détective, là, dans laquelle il y avait un médecin. Ce médecin-là, en 1898, avait décidé de quitter la pratique générale pour se consacrer à la psychiatrie. En 1898, ce médecin-là avait été considéré presque ostracisé par ses collègues parce que c'était pas sérieux de se consacrer à la santé mentale. C'était pas de la médecine, ça. Alors, on part de loin. Donc, ça a fait son chemin. Maintenant, on parle plus de dépression chez les adultes. On est plus familier avec ça. Moi, je dirais que c'est encore quand même assez tabou. C'est quelque chose qu'on minimise plutôt que de reconnaître que c'est un problème de santé important au même titre qu'une leucémie ou qu'une autre maladie physique. Et quand on parle des enfants, c'est encore pire parce qu'il y a à peine 15 ans, on pensait pas qu'un enfant pouvait faire une dépression. On pensait pas qu'un enfant de 11 ans pouvait être psychotique. Absolument. C'est des choses qu'on découvre de plus en plus. Et il y a 300 diagnostics en santé mentale pédopsychiatrique. Ça vous donne une idée de la complexité de la chose. C'est encore plus tabou chez les enfants parce que c'est souvent, en fait, ça se traduit dans les comportements des enfants. Les enfants ont souvent l'air mal élevés en public, ils tapent des crises à la pharmacie, ils envoient promener la terre entière, ils ont des comportements inappropriés. Alors, pour le commun des mortels, c'est des enfants qui sont mal élevés. Les parents n'ont pas de bon sens. C'est des enfants rois, on leur a tout laissé faire.
Ou qui traversent une crise de préadolescence, donc qui apporte quand même beaucoup de changements. Mais il faut le dire, 70 % des problèmes de santé mentale se déclarent avant l'âge adulte.
Et vous vous imaginez que si on intervient tôt, aussitôt que possible, et qu'on développe des outils, vous vous rendez compte qu'on va permettre à ces enfants-là de ne pas être décrocheurs, de ne pas devenir peut-être sans-abri. Moi, je pense que la plupart des problèmes qu'on rencontre à l'adolescence et à l'âge adulte en santé mentale, si on intervient tôt, on peut minimiser leur impact sur la vie des gens. Parce que qu'est-ce que ça représente? C'est quoi un enfant avec un problème de santé mentale? Bon, c'est peut-être un enfant qui est dépressif, c'est peut-être un enfant qui est psychotique, c'est un enfant qui est anxieux. Ça, l'anxiété, là, c'est un problème qui est tellement sous-estimé. En fait, on pense que 25 % des enfants ont un trouble anxieux. Quand on parle de trouble anxieux, là, c'est pas simplement d'être nerveux avant un examen, c'est d'être incapable.
Non fonctionnel, en fait, dans différentes situations de la vie.
C'est comme si l'image que j'essaie de mettre là-dessus, parce que c'est très abstrait, c'est que pour la plupart des problèmes sévères de santé mentale, c'est comme s'il y avait une tempête dans ta tête. Et quand il y a une tempête dans ta tête, il n'y a aucun espace pour autre chose que pour la tempête. Alors, tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire plus de recherches encore, parce que souvent, je me rends compte qu'on en sait moins sur le fonctionnement du cerveau que ce qui se passe à la planète Mars. Hein. Parfois, ça va jusque-là. C'est juste pour vous donner une idée, dans les années 60, il y a 80 % des enfants qui avaient la leucémie qui en mouraient. On a fait de la recherche, on a développé plein de choses et aujourd'hui, c'est l'inverse. 80 % des enfants qui ont la leucémie s'en sortent. Alors, c'est à ça que ça sert la recherche. Comprendre, trouver des moyens. La recherche sert à comprendre, à développer des outils, puis ensuite, dans les cliniques, bien, tu utilises ces outils-là et les enfants, s'ils apprennent à s'en servir tôt, bien, moi, je suis convaincue qu'à 18, 19, 20, 21 ans, ils vont être des adultes pas mal mieux équipés que bien des adultes de 40 ans qui n'ont aucun problème de santé mentale.
Et si on prend en considération que les enfants et donc les jeunes adultes sont mieux outillés, donc les familles aussi oui. sont mieux outillées, les parents aussi peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe avec leurs jeunes.
C'est vivre avec un enfant qui a un trouble sévère de santé mentale. Puis là, je rentre là-dedans l'autisme. L'autisme n'est pas nécessairement un trouble de santé mentale. C'est pas une maladie, mais c'est traité en pédopsychiatrie. On peut pas s'imaginer de l'extérieur ce que c'est. On voit peut-être l'enfant faire sa crise à la pharmacie, puis c'est tout. Mais dans le quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a souvent un enfant à la maison qui dort pas. 80 % des enfants qui ont un trouble de santé mentale dorment mal, alors que c'est à peu près 25-30 % dans les enfants généraux. Un enfant qui ne dort pas, c'est une famille qui ne dort pas. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai un fils autiste qui, par moment, me réveille 5 fois par nuit, même s'il a 18 ans aujourd'hui. Alors, ça vient tout chambouler. C'est des enfants qui, évidemment, des fois, tu as de la difficulté à entrer en communication avec eux. Mm-hmm. C'est pas évident pour un parent de ne pas avoir de contact avec son enfant. Le quotidien des familles est durement altéré. C'est très incapacitant, la santé mentale. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. Avec un enfant sur cinq qui a un trouble, là, il y en a sûrement dans votre entourage. Et le plus beau cadeau que vous pouvez pas faire à ces familles-là, c'est de leur dire, je sais pas, moi, le samedi après-midi, ça vous tente-tu d'aller faire l'épicerie tout seul ou ça vous tente-tu d'aller voir un bon film au cinéma? Je vais prendre votre enfant en charge. Les gens hésitent parce que nos petits qui ont des troubles de cet ordre-là, c'est souvent des petites bébites. Et puis, tu sais pas trop quoi faire avec les petites bébites, mais il faut jamais oublier que derrière la petite bébite, il y a un enfant qui se développe.
Oui, il y a un jeune qui oui. développe son potentiel, qui veut le comprendre aussi pour pouvoir l'amener au monde. On parle de peut-être de besoin de répit, on l'a mentionné. Il y a des services qui existent pour soutenir les parents, oui. soutenir les familles. Nous, l'hôpital de jour...
Oui, ben, en fait, je voulais vous parler de quelques-uns, oui, des services qu'on offre à l'hôpital. Nous, on n'offre pas de services. Hein. Donc, la Fondation soutient l'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'offre pas de répit. Mais l'hôpital pas à pas, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un petit bijou dont on ignore la nature. En fait, l'hôpital de jour pas à pas est un petit hôpital pour les enfants autistes préscolaires. Pouvez-vous vous imaginer que lorsqu'on est autiste et qu'on a souvent les cas les plus difficiles, on le voit facilement à partir de 2 ans, ils sont rejetés de la garderie qu'ils fréquentent parce qu'ils ont des comportements inappropriés. Alors, ces jeunes-là sont pris en charge à l'hôpital de jour pas à pas. Pendant, ils viennent 3 jours semaine, il y a des éducateurs, toute une équipe autour d'eux qui fait débloquer les comportements, qui travaille sur les comportements et avec les enfants et avec les familles. Et au terme de 3 mois, habituellement, ces jeunes-là retournent dans leur milieu de garde et ça fonctionne.
Oui, c'est merveilleux. Donc c'est un nouveau lieu de socialisation oui. pour après revenir avec les autres camarades.
Alors, on a développé des outils, des moyens. On travaille avec les enfants, on travaille avec les familles. Donc, tout ce monde-là repart mieux équipé pour essayer d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus intéressant, plus agréable, où tout le monde est plus heureux. Parce que c'est pas parce que t'es autiste et que t'as 2 ans que t'as pas... T'as pas d'envie comme tout le monde, sauf que t'es pas capable de le dire, t'es peut-être pas capable de faire savoir aux grands ce dont t'as besoin. Mm-hmm. Alors, quand tout le monde est capable de mieux se comprendre, ça facilite drôlement les choses.
Il y a aussi le laboratoire oui. du sommeil.
Je vous disais tantôt que 80 % des enfants qui ont un trouble de santé mentale ont de la difficulté à dormir. Alors, il y a un laboratoire à Rivière-des-Prairies qui se consacre à ces problèmes-là. En fait, c'est fou ce que la recherche et la technologie amènent. Il y a une entreprise québécoise qui a développé des T-shirts, des chandails intelligents. Donc, plutôt que de faire dormir l'enfant au laboratoire, ça arrive encore qu'on le fasse, mais on leur prête un chandail intelligent. Il y a des sondes dans ce chandail-là qui prennent le rythme respiratoire. T'as un petit boîtier qui enregistre les ondes du sommeil et tout et tout. Et donc, on peut très bien ensuite faire les lectures qui s'imposent, voir c'est quoi les problèmes. On a développé toutes sortes d'outils à transmettre aux parents pour faciliter l'endormissement, pour faciliter le sommeil. On a fait des recherches aussi à un moment donné sur la mélatonine. Alors, c'est à ça que ça sert, la recherche. Et là, lorsque ces enfants-là, on a bien décortiqué leur sommeil, qu'on a réglé certaines choses, ben on les retourne évidemment dans la clinique de laquelle ils proviennent, soit la clinique de l'humeur ou la clinique des troubles anxieux. Et là, ben, les thérapies qu'on essaie de mettre en place fonctionnent bien mieux avec des enfants reposés, avec des familles reposées. Alors, c'est tout ça qu'on essaie de faire et de mieux faire encore à la Fondation en appuyant l'hôpital.
Et il nous reste une petite minute. Il y a aussi la thérapie de l'aventure.
Oui.
Aventure, ça, c'est un mot que tout le monde accroche. C'est quoi la thérapie de l'aventure?
La thérapie de l'aventure, c'est un gymnase dans lequel on a installé des poutres très, très hautes, des espaliers difficiles. On a fait des labyrinthes dans lesquels on se sent un petit peu enfermé. Et donc, là aussi, en fait, avec les enfants anxieux surtout, et ça marche avec les ados, cette thérapie-là. D'ailleurs, il n'y a pas de place. Il faudrait construire un autre gymnase. On les déstabilise. Et par exemple, on les fait marcher sur la poutre à 30 pieds de hauteur. Évidemment, ils sont harnachés. Ils sont
attachés, oui.
Mais on leur apprend à décortiquer ce qui se passe à l'intérieur d'eux, à sentir. Parce que quand tu es anxieux à plein temps, là, tu ne sens plus rien à l'intérieur de toi. Donc, on leur apprend à sentir leur respiration, à voir la sueur, à voir tout ça. Et quand ils ont compris comment ça marche, ils sont capables de redescendre. Ils sont capables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et ça fait toute la différence.
Wow, génial, ça me tente de le faire.
Ben, je vais t'inviter.
Thérapie de l'aventure. Pour avoir ces informations-là, on se rend évidemment sur le site de la Fondation des Petits Trésors. Sylvie Lauzon, vous êtes la directrice de cette belle fondation. Merci beaucoup de nous partager les initiatives et ce que vous supportez aussi. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui à Ça vaut le détour. Je remercie mes invités, Sylvie Lauzon, Claude Séguin du Camo pour les personnes handicapées, Sophie Langteau, directrice de Société Logique, et on avait commencé l'émission avec Madame Diane Bernier-Houde de Autisme Montérégie. Je remercie aussi mon équipe technique qui m'accompagne toujours, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour. À bientôt.